vais inviter Daniel Desmet, qui est un éminent spécialiste du chiisme ésotérique, de l'ismaélisme et du druidisme en particulier, mais pas uniquement, et qui va poser la question de la mystique éventuelle en ismaélisme, qui est une des formes du chiisme ésotérique. Henri Corbin avait écrit ceci.
Existe-t-il une mystique ismaélienne? J'espère que le micro fonctionne. La doctrine de l'ismaélisme, une des trois branches majeures de l'islam chiite, se présente elle-même comme l'expression du sens caché, ésotérique, batin, on en a déjà parlé ce matin, de la révélation coranique, enseignée par les imams et leurs porte-paroles, les douhats, les missionnaires. À la suite d'Henri Corbin, cette doctrine ésotérique est généralement considérée comme un représentant majeur de ce qu'il est convenu d'appeler l'islam spirituel. Ce terme flou qui a donné son titre à une collection célèbre dirigée par notre ami Christian Jambet ici présent, semble couvrir un ensemble mal défini de courants dits spirituels ou mystiques. Nous retrouvons ainsi dans la collection mentionnée des écrits relevant du soufisme, de l'alchimie, de la philosophie mystique, par exemple les récits dits visionnaires ou mystiques d'Avicenne, ou le Hikmat al-Ishraq de Suhrawardi, à côté de textes d'auteurs chiites duodécimains et ismaéliens. Par conséquent, tout ce qui est étranger à l'islam littéraliste, juridique et politique, ainsi qu'aux traditions dites rationalistes au sein de la falsafa et du kalam, semble entrer dans la catégorie de l'islam spirituel. Or, la doctrine ismaélienne serait-elle spirituelle à cause de son orientation mystique? Peut-on parler de mystique dans le cas de l'ismaélisme? Existe-t-il, en d'autres termes, une mystique ismaélienne? Cette question est fort complexe. Outre le fait qu'il faut bien préciser ce que l'on entend exactement par mystique, il convient de rappeler que l'ismaélisme, loin de constituer une doctrine unitaire, a connu des développements considérables au cours de sa longue histoire mouvementée. Prenons le terme mysticisme dans le sens indiqué par le petit Larousse. Ça peut paraître banal, mais néanmoins c'est utile. Je cite « attitude religieuse ou philosophique qui affirme la possibilité d'une union parfaite avec Dieu ou l'absolu dans la contemplation ou l'extase, doctrine qui admet la réalité de cette union ». Fin de citation. La question fondamentale est alors la suivante, l'ismaélisme admet-il la possibilité d'une telle union avec Dieu ou l'absolu? Cela est loin d'être évident, compte tenu de l'inspiration foncièrement néoplatonicienne de la pensée ismaélienne. On se retrouve en partie dans tout le débat autour de la question « Est-ce qu'il y a une mystique chez Plotin ?» Là aussi, les avis sont très partagés. Ainsi, selon la doctrine ismaélienne classique, l'ultime ou l'instaurateur, le Mobdi, demeure à tout jamais hors de la portée de ses créatures. Celles-ci ne peuvent jamais l'atteindre en son essence, de quelque manière que ce soit. Je commencerai mon enquête, disons, un peu en aval, en me concentrant sur l'ismaélisme de tradition nizarite, donc après le XIIe, XIIIe siècle. Et j'ai intitulé ce point « L'ismaélisme sous le manteau du soufisme, la mystique comme dissimulation, comme paquia ». La destruction d'Alamout par les Mongols en l'an 1256, suivie par la chute successive des forteresses nizarites en Iran et en Syrie, marque le début d'une longue période d'impitoyable persécution contre les Ismaéliens nizarites. La communauté fut disloquée et les survivants au désastre se groupèrent en cercle fermé, éparpillés à travers le monde musulman, de la Syrie à l'Iran et bien au-delà, cherchant refuge dans les vallées isolées de l'Afghanistan et du Tadjikistan, ainsi qu'aux Indes et plus tard en Afrique subsaharienne. Constituant des îlots dans un environnement qui leur était ouvertement hostile, sans contact direct avec l'imam dont la plupart ignoraient l'identité et le lieu de résidence, les Nizarites doivent leur survie à la pratique rigoureuse de la paquia. Il s'agit d'une mesure sécuritaire bien connue de tous les groupes hétérodoxes en marge de l'islam, comme les druzes et les nousairis, qui consiste à cacher son identité religieuse en adoptant extérieurement les croyances et les rites majoritaires. Le sunnisme et le chiisme du haut des humains, auxquels s'ajoutent, dans le cas des nizarites, l'hindouisme et le soufisme. En effet, selon Farhad Daftari, un éminent spécialiste de l'ismaélisme nizarite, les imams postérieurs à la chute d'Alamout durent se déguiser en cheikhs ou pires soufis, et leurs dignitaires furent contraints d'exposer la doctrine sous une forme voilée, en employant des termes, des notions et des images empruntées à la mystique persane de l'époque. Il en résulte une littérature hybride dont il n'est pas clair de prime abord si elle relève d'un ismaélisme profondément teinté de soufisme ou d'un soufisme influencé par des éléments ismaéliens. Le diwan du poète Eda-i-Nizarit Nizari Kuristani, mort en 1320, le Pandiyati Javan Mardi, rapportant les sermons du 32e imam nizarite de la lignée Qasim Shahi, El-Mustanfir Billah II, Ibn Muhammad Ibn Islam Shah, mort en 1480, et le commentaire anonyme, attribué avec prudence par Daftari au 31e imam Muhammad Shahi, Shah Tahir el-Husseini el-Dakani, mort en 1549, du Hulshan-i-Ras, un célèbre poème soufi de Mahmoud Chabestari, constitue des exemples caractéristiques de cette littérature. Toutefois, cette fusion de l'ismaélisme et du soufisme semble avoir des raisons plus profondes qu'un simple déguisement par souci de paquia. Elle s'enracine dans la doctrine nizarite elle-même, étant la conséquence directe de la grande résurrection de la Qiyamat Bozorch, proclamée à Alamout en 1164 par l'imam Hassan II à la Zikri Es-Salam, c'est le titre qu'on lui donne généralement. Renouant avec une longue tradition messianique, qui remonte aux origines de l'ismaélisme et du chiisme en général, Hassan II annonça l'ouverture d'un nouveau cycle de manifestations, Dawr el-Kashf, impliquant l'abrogation du sens externe, du zahir, de la révélation coranique et de la charia. Le voile masquant le batin étant désormais ôté, l'imam devient directement accessible à ses fidèles. Il ne faut plus de textes révélés, ni de lois écrites, car lui-même est la révélation et la loi. Henri Corbin a très bien relevé que cette doctrine suppose, je cite, le bouleversement de l'ordre des correspondances admis dans les ouvrages de l'époque rabbinique. Fin de citation. En effet, selon le Mizan et Diane, la balance de la religion, élaborée par l'ismaélisme modéré de tradition fatimide, le prophète et l'imam sont sur un strict pied d'égalité et leur rang correspond à celui de l'intellect, le premier être créé par l'instaurateur inconnaissable et inaccessible. En revanche, pour les Nizarites, l'imam est supérieur au prophète. Si ce dernier correspond à l'intellect, l'imam est la figure épiphanique, dirait Corbin, le mashar du Amr Ilahi, l'impératif divin, la parole divine. Selon la cosmologie nizarite, qui reprend des spéculations cosmologiques élaborées au moins dès le Xe siècle par des auteurs de tendance karmate, l'impératif est une hypostase supérieure à l'intellect, le premier être créé. Bien que l'essence divine demeure inaccessible, Dieu se révèle par son verbe, l'impératif kun, soit, par lequel il a créé l'intellect. Dès lors, les Nizarites prennent à leur compte des hadiths dits extrémistes attribués aux premiers imams chiites. Ainsi, par exemple, la réponse du quatrième imam Ali Zayn al-Abidin à la question « Qu'est-ce que la connaissance de Dieu ?» Et l'imam répond « C'est la connaissance de l'imam de ce temps. » Ou cet autre hadith qui fait dire aux imams « Tout ce qui a été dit concernant Dieu l'a été concernant nous-mêmes. » Nasir al-Din al-Tusi déclare sans embâge dans le Rawdat al-Taslim, ouvrage datant de sa période nizarite, et je cite la traduction de Christian Jambet, Dieu l'a, donc l'imam, revêtu de l'habit de sa propre unité et lui a octroyé sa propre surexistence éternelle. Il lui a fait don d'un attribut d'entre ses propres noms et attributs, afin qu'il en opère la manifestation et que les lumières de ce nom, les effets de cet attribut, deviennent manifestes par lui. Sa parole est la parole de Dieu. Son opération est l'opération de Dieu. Son impératif est l'impératif de Dieu. Son verbe est le verbe de Dieu. Son jugement est le jugement de Dieu. Sa volonté est la volonté de Dieu. Sa science est la science de Dieu, etc., etc. Donc tous les attributs divins sont appliqués à l'imam. L'événement de la grande résurrection signifie que Dieu se manifeste directement à travers la personne théophanique de l'imam. Dès lors, une quête mystique de Dieu devient possible sous la forme d'une quête mystique de l'imam qui occupe, mutatis mutandis, une position comparable à celle du Christ dans le christianisme. Suite à la dispersion de la communauté après le désastre d'Alamut, les imams devinrent inaccessibles à la plupart des Nizarites. Mais la quête de l'imam et la méditation sur sa nature théophanique demeurèrent bien vivants. D'où l'éclosion d'une littérature ismaélienne teintée de soufisme, centrée sur la rencontre spirituelle et personnelle du fidèle avec son imam. L'ismaélisme passe donc sous le manteau du soufisme, à la fois par dissimulation, par taqiyya, et par une transformation doctrinale interne. Cela implique qu'il n'en a pas toujours été ainsi, mais qu'à une époque antérieure de son histoire, les rapports entre l'ismaélisme et la mystique ou le soufisme n'allaient pas de soi. En effet, les douades ismaéliens de tradition fatimide et taïbite, les taïbites c'est les héritiers de la tradition fatimide majoritairement au Yémen et puis plus tard aux Indes, ne se réclame jamais du tasawuf, du soufisme. Certes, il ne faut pas confondre en islam mystique et soufisme, ce dernier terme ayant souvent la connotation d'une mystique confrérique. Si les douates fatimides n'étaient guère des soufis, leurs pensées ne présentent-elles pas pour autant des aspects mystiques? En prenant le terme mystique dans le sens défini tout à l'heure, nous devons répondre par la négative. Car la transcendance absolue de l'ultime est affirmée avec une telle radicalité par la plupart des ismaéliens pré-nizarites et taïvites que leur doctrine laisse peu de place à une expérience mystique. Cela m'amène à mon deuxième point, donc maintenant je retourne en arrière, le début de la tradition ismaélienne au 10e, 11e siècle, Dieu demeure inaccessible à la perception de l'intellect et de l'imagination. Abou Yaqub Essijistani, un auteur mort vers 971, ouvre son livre des sources, son kitab El Yanabi, ouvrage traduit et édité par Henri Corbin, mais je donne ici ma propre traduction. Donc il ouvre ce livre par l'invocation suivante. Gloire à Dieu, qui est sanctifié au-delà des qualités que l'acte créateur Libda a fait exister, qui est dépouillé des signes tombant sous l'emprise du langage et de l'audition, qui transcende par l'abscondité de son unicité toute représentation qui serait capable de le saisir, qui échappe à toute tentative visant à se référer à lui par une définition ou une qualification. Certes, il prodigue à sa créature tout ce que les mots peuvent décrire et ce que les imaginations peuvent se représenter. Mais lui-même, en sa sublimité, reste inaccessible, vu l'impuissance qui maintient l'ensemble des créatures au-dessous du niveau requis pour le connaître réellement. L'ultime ou l'instaurateur, le Mubdi, qui a instauré Abda par son acte créateur Ibda en sa première et unique créature, l'intellect, d'un seul coup, daf'atan wahidatan, c'est un terme qui provient de la paraphrase arabe des Énéades de Plotin, l'ensemble des formes des souvar ou modèles amsal, dont les êtres des mondes intelligibles et sensibles sont les reflets, cet instaurateur donc est si différent de sa création que celui-ci ne pourra jamais l'appréhender ou l'exprimer de quelque manière que ce soit. Dieu demeure par conséquent caché sous un voile impénétrable, étant absolument inconnaissable et ineffable. Il résulte de cette prise de position radicale que la transcendance divine rend toute théologie, dans le sens d'un discours rationnel sur Dieu, théoriquement impossible. En effet, les musulmans qui prennent au pied de la lettre ce que le Coran dit d'Allah, ainsi que les philosophes et les théologiens qui se disputent sur le statut des attributs et des noms, les fameux 99 noms divins, sont tous taxés, sans exception, d'associationnistes de Mouchabihoun. Ils assimilent Dieu à ses créatures en disant par exemple qu'il est existant, savant, puissant, juste ou magnanime. Ce sont là, disent les Ismaéliens, des qualités que l'on peut reconnaître à un souverain, à un père, à un professeur, mais qui ne conviennent point à Dieu. Bien avant l'islam, certains théologiens juifs et chrétiens, inspirés précisément par le néoplatonisme, avaient fait des observations analogues. Soucieux de préserver la transcendance divine, ils avaient proposé une théologie négative qui consiste à parler de Dieu en lui niant toute qualification. tout attribut positif. Ils espéraient ainsi cerner la nature divine en disant ce qu'elle n'est pas, à défaut de pouvoir dire ce qu'elle est. Cette théologie négative a parfois été interprétée comme une forme de mysticisme. Or, les Ismaéliens rejettent même cette voie négative, ce tariq al-Nafi, comme une forme d'anthropomorphisme ou d'associationnisme tout aussi pernicieuse que la théologie positive. Selon eux, on ne peut pas dire de Dieu qu'il est vivant, car cette qualité ne revient qu'à certaines de ses créatures, les êtres vivants. Mais il est également illicite de dire qu'il est non vivant, puisque cela reviendrait à l'assimiler aux créatures inanimées, comme les pierres ou les cadavres. La seule issue consiste alors à nier à Dieu toute qualification, qu'elle soit positive ou négative. Dieu n'est ni vivant ni non vivant. Il n'est ni existant ni non existant. Il n'est ni puissant ni non puissant, et ainsi de suite. Bien sûr, ces séries de doubles négations ne nous apprennent rien sur Dieu, si ce n'est qu'il n'a aucun trait en commun avec ses créatures, qui leur échappe totalement. Hors de la portée de nos facultés sensitives et intellectuelles, il demeure à tout jamais inconnaissable et donc inexprimable. Les auteurs ismaéliens ont développé une philosophie du langage visant à montrer que toute forme de discours, qu'il soit démonstratif, symbolique, rhétorique ou poétique, appartient nécessairement à l'ordre du créé et ne peut par conséquent se référer à Dieu. Puisqu'il est vain de vouloir parler de ce que l'on ne peut connaître, ici réside la nature même du mensonge, nous dit Hamid Dil al-Kirman, un célèbre philosophe ismaélien mort vers l'an 1020. Il convient de garder le silence au sujet de Dieu. On pourrait voir dans ce silence une forme de mystique, mais ici, bon, c'est l'apophatisme total. Hein, on ne peut rien dire de Dieu. Si on parle de Dieu, on raconte des bêtises. D'où l'impossibilité de toute théologie, qu'elle soit positive ou négative. On peut certes déduire par la raison, par la raco, qu'il y a une réalité, un principe ultime, un quelque chose qui est à l'origine de l'univers, une ultime réalité. Mais l'essence divine n'étant pas intelligible, Dieu n'est pas un intellect, contrairement aux philosophes arabes qui considèrent Dieu comme un intellect, comme le premier intellect, l'intellect auto-intelligent d'Aristote, du livre Lambda d'Aristote. Pour les Ismaéliens, Dieu n'est pas un intellect. Donc, n'étant pas un intellect, il n'est pas intelligible. On ne peut pas le connaître par la raison. Mais Dieu échappe non seulement à la raison, il échappe également à la perception des sens. Et puisqu'on ne peut avoir aucune perception sensible de Dieu, notre faculté imaginative est tout à fait incapable de se faire une représentation de lui. Donc là, je vous cite un passage du livre de la quiétude de l'intellect d'El-Kirmani. Lui, en tant qu'il est lui, Hoa min haïsu Hoa, scelle les bouches afin qu'elles ne bougent, les langues afin qu'elles ne parlent, l'intellect afin qu'il ne comprenne, et l'âme afin qu'elle ne se fasse pas de représentation. Ce qui est sensible ou intelligible peut être atteint par la connaissance. Quant à Dieu, puisqu'il s'élève au-dessus du sensible et de l'intelligible, les portes de la perception demeurent bloquées. En effet, s'il était sensible, les sens pourraient l'atteindre. S'il était intelligible, il pourrait être saisi par les cinq voies, les turuq al-khamsa, de la logique aristotélicienne, à savoir la définition, la division, l'analyse, la composition et la démonstration. N'étant ni sensible ni intelligible, il est absurde de dire de lui ce que l'on dit de lui. Fin de citation. Tout comme l'instaurateur demeure hors de la portée de l'intellect, il se soustrait à l'imagination. Les facultés imaginatives de l'âme humaine ne peuvent se le représenter. Entre parenthèses, les Ismaéliens de cette époque se sont fortement inspirés de la théorie de la connaissance d'Aristote. Donc on est tout à fait dans le traité de l'âme d'Aristote. Donc il n'y a pas de représentation. Puisqu'il n'y a pas d'image de Dieu, aucune représentation de lui n'est possible. El-Kirnani résume sa position dans ce qui sonne comme une profession de foi. Je cite, « J'atteste que la divinité n'est pas quelque chose, ce n'est pas une chaîne, qui peut être saisie par l'intellect ou par l'âme, et au sujet de laquelle on puisse juger par l'imagination, brahm, ou la sensation. » On peut évidemment se demander si ce Dieu inconnu ne se révèle pas par l'intermédiaire de l'intellect de sa première créature. Nous avons vu que l'instaurateur a instauré en lui d'un seul coup toutes les perfections et toutes les formes dont procèdent par voie d'émanation les êtres qui peuplent le monde intelligible et le monde sensible. L'intellect est dès lors l'être, l'un, l'unique, la cause première, le bien pur, auquel s'appliquent toutes les qualifications généralement attribuées à Dieu. Donc les Ismaéliens nient à Dieu tous les attributs, les 99 noms, tout ce que dit le Coran au sujet de Dieu, ils le nient à Dieu, mais ils l'appliquent à sa première créature, à l'intellect. Et donc l'intellect devient en fait la divinité qui est adorée par les musulmans, mais ce n'est pas l'ultime, c'est un être créé. Et donc il y a une discontinuité totale entre Dieu, entre le principe ultime et sa première créature, qui est un intellect et qui peut être connu, dont on peut, qu'on peut approcher aussi bien par l'intellect que par d'autres formes de connaissance. Donc Dieu ne se révèle pas à travers l'intellect, puisqu'il existe entre le créateur et sa créature une discontinuité totale, marqué par l'acte même de l'instauration, par l'ibda, dont la nature demeure tout aussi inconnaissable que les sens de l'instaurateur. Tout ce que l'on peut en dire se résume au fait qu'il n'y a aucune forme de participation, il n'y a pas d'ishtirak, c'est un terme du néoplatonisme, entre l'instaurateur et l'instauré. Pour cette raison, les auteurs ismaéliens rejettent ce qu'ils appellent la thèse des philosophes, selon lesquels l'intellect procède de Dieu par émanation, ou il nie également qu'il existe un lien de causalité entre Dieu et sa première créature. Dieu n'est pas la première cause, hein, tous les philosophes arabes considèrent Dieu comme la cause des causes, la première cause pour les Ismaéliens. Dieu n'est pas une cause, puisqu'il existe un lien de participation et de continuité entre la cause et l'effet. Selon un adage de la philosophie médiévale, il n'y a rien dans l'effet qui n'était pas déjà dans la cause. Donc, Dieu était la première cause, la cause de l'univers, il y aurait une forme de participation entre l'effet et la cause, et la transcendance de Dieu serait tout à fait détruite. Donc, il y a un abîme infranchissable entre Dieu, entre l'essence divine et l'intellect qui est sa première créature. Alors évidemment, on pourrait encore se poser la question s'il n'y a quand même pas une autre voie, s'il y aurait encore une autre voie pour s'approcher du principe ultime, une sorte de vision mystique de Dieu. Bien malheureusement, selon moi, nos auteurs ismaéliens coupent également cette autre forme de connaissance en stipulant d'une façon très explicite que l'ultime se soustrait à l'engagement du cœur. Donc, ne pourrait-on pas envisager une autre approche de Dieu par des voies situées en dehors des facultés noétiques de l'âme humaine telles qu'elles sont décrites par Aristote dans le traité de l'âme? Les auteurs ismaéliens semblent en effet faire allusion à une connaissance par le cœur, mais ils ajoutent aussitôt que celle-ci n'est pas applicable à Dieu. Même si une telle expérience extatique de Dieu était possible, elle ne serait pas exprimable. Mais ça, bon, c'est normal, on l'a vu ce matin à plusieurs reprises, on ne peut pas exprimer. Attar était devant le même problème. Mais, selon ma lecture, un auteur comme Tiermann rejette la possibilité d'une telle approche de Dieu. Et je cite un passage de Tiermann, « La véracité de ceux qui professent le Tawhid, le Mouahidoun, donc le Mouahidoun c'est les Ismaéliens, hein, c'est ceux qui professent l'unité absolue de Dieu, bien que Dieu ne soit pas un, il est au-delà de l'un, à savoir donc les Ismaéliens, donc là, est attestée lorsqu'ils proclament qu'il ne peut être exprimé ni par une parole extérieure, dit Lafzin Kauli, ni par un engagement intérieur, dit Akt Damir, et Akdin Damirin. Comment les lettres pourraient-elles se référer à une entité qui a fait exister les êtres créés, émanés et générés? De même, les chapitres sur le Tawhid, servant d'introduction à de nombreux écrits taïbites, donc les auteurs du Yémen à partir du XIIe siècle, s'ouvre souvent par une formule qui nie explicitement la possibilité de toute saisie de l'ultime, que ce soit par la pensée, fikr, par l'imagination, wahm, ou par acte d'amir. En voici un exemple tiré de la Risala tel Mabda wal Ma'at de Mohamed ibn el-Walid, un autre texte qui a été édité et traduit par Corbin dans la trilogie ismaélienne. Je donne ma propre traduction. « Sache que le mystère des mystères est celui vers lequel les pensées ne peuvent se risquer, qui ne peut être saisi par un engagement intérieur, ni perçu par une réflexion intellectuelle. Aucun nom et aucun attribut ne lui est applicable, il n'y a aucun moyen de le concevoir, si ce n'est en attestant que l'ensemble des mondes a un principe qui les a instaurés, mais que les intelligences sont impuissantes à concevoir. » Fin de citation. Malheureusement, je ne connais aucun texte ismaélien qui explique le sens du terme « acte d'amir », « engagement », « lien intérieur ». Le mot « d'amir », le « fort intérieur », pouvant être synonyme de « kalb », « cœur », il est fort probable que « acte d'amir » soit identique à « acte kalbi » ou « acte el kalb », une expression qui relève du vocabulaire de la mystique musulmane et à laquelle les penseurs chiites, dus au destin de l'école d'Ispahan, accordent une place centrale. Mais c'est une notion qui apparaît également dans les textes ismaéliens. En un passage très dense où il décrit cette notion de connaissance par le cœur, telle qu'elle fut élaborée par Qadi Saïd Qumi, Corbin y voit une transgression, une violation de la théologie apophatique, donc la théologie doublement négative dont nous avons parlé, des Ismaéliens. Et je cite un assez long passage de Corbin tiré du quatrième tome en islam iranien, mais c'est un passage qui est très important, donc je cite, « La connaissance qui est désignée comme ma'rifat implique un lien du cœur. » Un engagement du cœur, acte kalbi. C'est une connaissance qui est reconnaissance, acquiescement, conscience spirituelle inspirée par la contraste entre le créé et celui dont il est dit, il n'y a rien qui lui ressemble. Celui à qui aucun attribut positif ne peut être conféré, la négation n'étant elle-même vraie que si elle est immédiatement équilibrée par la négation de cette négation, parce qu'il ne peut pas même être qualifié par le contraire d'une qualification. C'est la double négativité dans laquelle a excellé la dialectique ismaélienne du Tawhid, ne cernant dans le cercle de sa double négativité que le vide de l'imprédicable. Franchir cette limite de la théologie apophatique, c'est commettre une violence et une violation. Quant à l'acquiescement lui-même, il n'est pas produit par la faculté intellective ako, il éclot comme sentiment inné de la nature foncière de l'homme, de la fitrat, cette fitrat étant la lumière divine même dont les hommes furent créés. Là même s'originent les thèmes de la connaissance par le cœur, ma'rifat kalbiya, de la vision intérieure du cœur, la firat kalbiya, d'une importance également fondamentale pour d'autres théosophes chiites, tels dans la sadra. Fin de citation. En reléguant l'approche de l'ultime par acte d'amir ou par acte kalbi, dans le domaine de l'impossible, et là les textes ismaéliens sont formels, ils rejettent une telle approche de Dieu. Les ismaéliens ont refusé de transgresser leur propre théologie apophatique. Toute connaissance du Moubdi est exclue, qu'elle soit rationnelle ou mystique. Et donc, il existe tout un ensemble de textes issus de la tradition ismaélienne qui décrivent par exemple le Mi'raj. Les différentes traditions relatives à l'ascension céleste du prophète. Généralement, les ismaéliens interprètent le Mi'raj comme une sorte de voyage spirituel, de quête et de progression dans la quête, disons, spirituelle, mais tous les textes nous disent qu'à un certain moment, l'ascension s'arrête. On ne peut jamais, donc on ne pourrait jamais atteindre, si le Simor est la réalité ultime, on ne pourrait jamais atteindre ce stade. Et il y a même dans l'ismaélisme du Xe siècle une discussion autour de la question de savoir où finit l'ascension. Même les prophètes, est-ce que les prophètes peuvent connaître Dieu? Non. Est-ce qu'ils peuvent connaître l'intellect? Est-ce qu'ils peuvent, dans leur progression spirituelle, accéder jusqu'à l'intellect? Ben, les avis sont partagés. Certains disent qu'ils ne peuvent pas aller plus loin que l'âme universelle, que donc la troisième hypostase d'entité donc, qui est émanée de l'intellect. Donc, même dans toutes ces traditions concernant le mirage, la voie est bloquée. Et donc là, c'est tout à fait... c'est tout à fait explicite. Donc j'aborderai maintenant un dernier point, une mystique centrée sur la connaissance de l'imam. Ça me rapproche de mon point de départ. Existe-t-il alors dans l'ismaélisme une mystique centrée sur la connaissance de l'imam? Selon la balance de la religion dont on a déjà parlé tout à l'heure, le Mizan et Diyanin, élaborée par les auteurs Fatimides et Taïbites, le prophète et l'imam, qui forment une unité indissociable, correspondent à l'intellect universel, le premier être instauré. Cela ressort notamment des nombreux schémas et tables qui ornent les manuscrits ismaéliens. Un contemporain de Kirmani, Ahmed ibn Ibrahim el-Nishapuri, mort vers 996, écrit ouvertement en son kitab Izbad al-Imam, le livre de l'établissement de l'imama, je cite, « L'imam est la lumière des âmes, de lui procède la lumière intellectuelle, ainsi que le mouvement et l'élévation. L'imam occupe dans le monde qui est le sien la place de l'intellect universel. La plus noble des facultés et des esprits dans l'homme est l'intellect. L'imam est l'intellect universel dans le monde. Les gens doués de science dépendent de lui, tendent vers lui et s'unissent à lui. » Fin de citation. En d'autres termes, l'imam est le lieu de manifestation, la figure épiphanique, le mashar, non de la divinité, mais de l'intellect. L'imam est l'intellect incorporé, le akal el-mujafat. C'est un terme qui est assez fréquent dans les textes ismaéliens. Donc, l'imam est une figure divine, mais il est divin pour autant que l'intellect est divin. Mais il existe une différence totale entre l'intellect et la divinité, puisque l'intellect est tout simplement un être créé. L'imam joue dès lors le même rôle que l'intellect agent des philosophes arabes. son intellect étant toujours en acte, c'est lui qui, par son enseignement, son ta'lim, fait passer l'intellect de ses fidèles de la puissance à l'acte et leur permet d'atteindre un degré d'actualisation suprême dans lequel réside la béatitude de l'âme et sa survie éternelle une fois libérée de ses attaches corporelles. Donc on est à nouveau dans une théorie de la connaissance d'origine aristotélicienne selon laquelle à notre naissance, notre intellect se trouve dans un état de puissance, donc c'est purement, c'est une feuille de papier vide, et cet intellect doit passer de la puissance à l'acte sous l'influence d'un intellect qui est déjà en acte, c'est du pur aristotélisme. Donc cet intellect qui est toujours en acte, c'est l'intellect agent d'Aristote, qui est incorporé en ce monde par les prophètes et surtout par les imams. Et c'est l'enseignement des imams qui fait passer l'intellect du disciple, de l'initié, de la puissance à l'acte, et donc finalement la béatitude finale et la survie de l'âme après la mort du corps ne sera possible que si l'âme est pleinement actualisée en ayant accepté l'enseignement de l'imam. Bien que l'effet produit par l'enseignement de l'imam sur l'intellect du fidèle, celui qu'on appelle le mustajib, le répondant, soit généralement décrit en des termes donc empruntés à la noétique aristotélicienne, les auteurs ismaéliens y introduisent une symbolique axée sur la lumière. Ainsi, l'âme du disciple est illuminée par la lumière émanant des propos des imams. Elle devient subtile, diaphane, purifiée des ténèbres de ce monde. Ce thème de l'illumination rappelle de près la philosophie de l'Ishraq, en particulier celle de Sohrawardi, dont l'enracinement profond dans la mystique musulmane est bien connu. Tout en étant présente dans la littérature d'époque fatimide, la notion de la lumière et de l'illumination connaîtra des développements importants dans la tradition taïbite du Yémen. Il suffit de citer en guise d'exemple la Risalat al-Mabda wa al-Ma'ad d'Ibn al-Walid, je cite, « Quand le répondant a répondu à l'appel devant un des dignitaires et récite en sa présence le noble pacte, donc c'est le pacte que chaque ismaélien au moment de son initiation doit souscrire, c'est un pacte de fidélité à l'imam, tout en ayant une intention pure envers son dignitaire et le maître du temps, c'est l'imam qui l'a appelé vers lui, un point de lumière se joint à son âme. Celui-ci demeure adjacent à son âme sans se mélanger avec elle. Il l'illumine étant comme une perle pour elle. Il se joint à l'âme du répondant à partir du dignitaire qui lui est supérieur. La source en est l'influx et l'inspiration qui coule à partir de celui vers qui les pensées ne peuvent se risquer, sur le devançant, le premier intellect, puis à partir de lui, sur les autres intellects du monde de l'instauration, jusqu'au dixième, le démiurge du monde de la nature, puis sur chaque rang noble de son époque. Et, fin de citation, ce point de lumière grandit progressivement à mesure que le répondant progresse dans son initiation. Arrivé au terme de sa vie terrestre, lorsque son âme se sépare du corps, celle-ci rejoint le temple de lumière, le Haikal Nourani, qui se situe auprès du dixième intellect. Nous reconnaissons ici la version taïbite de la conjonction de l'intellect humain avec l'intellect agent, dans laquelle réside la béatitude de l'âme, selon les philosophes arabes. S'il existe des éléments mystiques dans l'ismaélisme, il faudrait les chercher, à mon avis, dans cette quête de l'illumination de l'âme, qui est à la fois une quête de l'imam, être de lumière, pour employer la terminologie de Corbin, dont l'âme irradiant une lumière étincelante réside dans un corps diaphane, un corps gonflé, un jism kafouri, qui manifeste la divinité, le lahout de l'imam, à travers sa nature humaine, le nasout. Toutefois, cette quête de l'imam n'est pas mystique, entre guillemets, en ce sens qu'elle n'aboutit pas à l'union avec l'ultime ou l'absolu. Bien que l'imam soit un être divin, mais divin dans un sens très particulier, il n'est que la manifestation de l'intellect. De surcroît, les auteurs fatimides et taïbites suivent les philosophes en niant la possibilité d'une union, d'une ittihad de l'intellect humain, même parvenu au plus haut degré de sa perfection avec l'intellect universel ou l'intellect agent. Il n'y a pas d'union, il y a une conjonction, mais pas d'union. Et si Sijistani a consacré la 35e source de son kitab El Yanabi à démontrer, je cite le titre de ce chapitre, qu'aucun être ne peut atteindre au rang de la première intelligence. Donc pour Sijistani, j'en parlais tout à l'heure, il y a des philosophes, des penseurs hispaniens qui croient que même l'initié ne peut jamais monter jusqu'au premier être créé. Dieu s'est tout à fait exclu, mais même l'ascension jusqu'à la première intelligence, donc l'intellect, est impossible. De même, selon la sotériologie taïbite, le temple de lumière où résident les âmes pleinement illuminées par l'enseignement de l'imam se situe dans l'horizon, fi ufq, de la 10e intelligence, du 10e intellect. Donc là, on a une cosmologie avec 10 intellects. Donc finalement, l'âme ne pourra jamais aller au-delà du 10e intellect. La béatitude de l'âme, c'est entrer en conjonction, s'unir sans devenir une avec le 10e intellect. Mais le 10e intellect, c'est l'intellect qui meut la sphère de la lune, donc on est encore très loin de Dieu. Bon, et du premier intellect, il y a 9 intellects qui séparent le 10e intellect de l'intellect ultime, et là on n'est pas encore à la réalité ultime, puisqu'il y a un gouffre total qui sépare l'intellect, le premier être créé, de l'ultime. Voilà, il est grand temps de conclure. Nous pouvons conclure de tout ce qui précède que l'ismaïlisme fatimide et taïbide n'a jamais encouragé l'éclosion d'une mystique particulière. Contrairement au courant spirituel du chiisme duodécimain, dont les représentants exploitent abondamment les œuvres des grands mystiques musulmans, en particulier Ibn Arabi, qui a joué un rôle énorme dans toute la philosophie chiite duodécimaine, par exemple chez Mollah Sadra, les auteurs ismaéliens semblent tout simplement les ignorer. Je n'ai jamais trouvé la moindre trace d'un auteur mystique musulman dans un écrit ismaélien. Bon. La raison de ce désintérêt s'explique à la fois par l'inspiration néoplatonicienne de la doctrine ismaélienne, qui prône un abîme infranchissable entre l'instaurateur et sa première créature, l'intellect, et par l'influence de la philosophie arabe, qui, les philosophes arabes, rejetant la possibilité d'une union de l'intellect humain avec l'intellect cosmique. Il fallait ce que Corbin appelait le bouleversement de la balance, opéré par l'événement de la grande résurrection, pour que l'ismaélisme nizarite puisse passer sous le manteau du soufisme. Suite à ce revirement doctrinal, l'imam devient l'incorporation de Dieu. Donc là, il y a une rupture avec la doctrine antérieure. Certes pas de l'essence divine qui demeure inaccessible, mais de l'impératif ou du verbe divin par laquelle il se manifeste à ses créatures. Désormais, la quête de l'imam se présente comme une quête du Dieu. Enfin, les circonstances tragiques après la chute d'Alamut ont obligé les imams nizaris et leurs dignitaires à se déguiser en soufis par mesure de Paqiyah. Je vous remercie.
Merci Daniel Lesmet pour un exposé qui nous a beaucoup apporté, qui est très solide et charpenté, qui nous a beaucoup apporté sur l'ismaélisme en tant que tel, mais qui a aussi beaucoup décodifié notre réflexion sur ce que c'est que la mystique, hein, mystique d'union, ou bien est-ce qu'on peut éventuellement parler de mystique de participation. Ben, en tout cas, maintenant c'est à la salle de réserve. Oui, Christian, c'est ça, j'en vais.
Je ne peux pas dire à quel point je suis entièrement d'accord avec votre approche. Il y a deux points qui me paraissent avoir, quoi, pour éclairer la notion de mystique, une importance toute spéciale et grande ici. Vous êtes d'accord sur cela. D'abord, le fait que, c'est la raison pour laquelle Gordon ne parle pas dans un cas comme celui-là, le fait que vous avez parfaitement relevé que dans la logique, en tout cas, de cette histoire, cette rupture qui a eu lieu dans la balance et l'équilibre de la doctrine ismaélienne, au moment des événements de la grande résurrection, ce qui finalement s'est présenté, c'est quelque chose dans l'islam qui relève d'une logique, on ne dira peut-être pas incarnationniste, mais enfin, tout proche, une logique de la manifestation humaine du verbe, ou impératif, de la volonté divine, je vais rappeler, et rendant possible, brièvement, et de manière très, très menacée, une spiritualité de l'imitation et de l'obéissance du verbe, si ce n'est incarné, au moins manifesté. J'ai l'impression, mais que l'ismaélisme a une immense valeur, non seulement intrinsèque, philosophique et morale et théologique, ou athéologique plutôt, comme vous, mais qui montre un vrai laboratoire expérimental, j'ai envie de dire, de l'échec de la mystique en islam. Il y a une rigueur intellectuelle, une profondeur, un refus de l'imaginaire, un refus de se payer de mots, qui est impressionnant et qui conduit à quelque chose, voilà, c'est ça que je devais souligner, qui est ou bien une théologie apophatique qui est même au-delà de tout apophatisme et qui se réconcilie avec la rigueur philosophique, et alors il n'y a pas en effet d'entraînement du cœur, ou bien alors une anthropologie messianique, mais le messianisme n'est pas la mystique.
Je suis tout à fait d'accord avec vous, donc ça va revoir tout à fait mon analyse. Mais évidemment, on pourrait dire, vous connaissez mieux la littérature d'Isaïe persane que moi, mais donc il y a évidemment dans ces milieux persans, il y a quand même une certaine quête mystique de l'imam.
C'était ma deuxième question. Oui. Est-ce que si je vous prends à la lettre, et il faut toujours vous prendre à la lettre, me semble-t-il, parce que vous prenez les textes à la lettre, c'est une tafia, un ketman, un voile, que l'usage de la langue du soufisme, à l'époque où les Nizaris sont passés sous le manteau du soufisme, est-ce que nous ne sommes pas encore trop prudents en disant qu'il y a un soufisme devenu ismaélien, ou un ismaélisme passé par les voies du soufisme, ou alors est-ce qu'il faudrait pas soupçonner ces voiles d'être vraiment des voiles, c'est-à-dire de faire obstacle à la doctrine qui resterait, elle, alors à jamais inconnue, et qui est en réalité, si on se réfère aux Nizaris actuels, un anthropomorphisme complet.
Oui. Mais où toute mystique est absente.
Et où toute mystique est absente.
Là, je suis tout à fait d'accord. Mais donc, ce que je voulais dire, donc, je ne crois pas à 100%, parce que c'est la thèse de Farhad Dakhshdari. Si j'ai bien compris, Farhad Dakhshdari, et pour lui, bon, le rapprochement entre l'ismaélisme et le soufisme à l'époque, donc après la chute d'Adamus, serait uniquement une question de taqiya. Donc il y aurait absolument, donc tout simplement, les Ismaéliens, des groupes ismaéliens se sont divisés sous des formes de confréries mystiques. Certains imams se sont fait passer, parce qu'évidemment on ne connaît pratiquement rien sur cette histoire. Donc, maintenant les Nizarites actuels ont une belle généalogie. On a Zagakan et c'est le 49e successeur du prophète, mais bon, entre les imams historiques et tout, bon, il y a beaucoup de lacunes. Donc certains de ces imams auraient été des pires, auraient été des cheikhs de confréries mystiques au 18e siècle, au 17e, 18e siècle. Je n'ai aucune idée en quel sens cela est vraiment. Je crois que c'est lié à la nature même de la doctrine nizarite de cette époque, mais c'est une mystique qui est centrée sur l'imam et pas sur Dieu. Bon. On pourrait comparer un peu peut-être la mystique chrétienne. La plupart des auteurs mystiques chrétiens ont pour objet de leur amour le Christ et pas Dieu le Père. Mais ici, évidemment, bon, c'est l'imam, mais bon.
La date de la résurrection majeure, quelle est cette date-là? 1166. 1164. Oui, mais parce que vous savez, dans le sophisme sunnite, je ne sais pas à quelle date est mort Abdelkader Jilani, mais c'est à cette époque-là.
Je ne sais pas,
monsieur Loli doit le savoir, ou, enfin, c'est à peu près cette époque-là. Abdelkader Jilani, c'est le plus grand soufi, le père de tout le soufisme qu'on fait, les Kabbalistes, parce qu'avant, il n'y avait que des petits groupes isolés, avec Junaid ou des petits groupes dans le Khorasan, mais après, c'est devenu une organisation internationale, une sorte de, vraiment, de, je ne sais pas quoi, pas de mafia, mais enfin de pieuvre, non, c'est vrai, la chakaderie, c'est une pieuvre qui a son centre à Bagdad, et qui a lancé ses rameaux dans tout le monde, parce qu'à Abdelkader Jilani, il y avait beaucoup d'enfants et petits enfants.
Je ne connais pas la
date. C'est vrai que Abdelkader l'Algérien est parti faire le pèlerinage avec son père Mohiddin à l'âge de 20 ans, parce qu'il est né en 1808. Il est parti avec son père en 1828 pendant un an. Il a fait le pèlerinage.
Il vaut mieux retourner à la question précise et à l'intervention de M. Desmet.
Et il a reçu, son père a reçu le firmant qu'il était le responsable de la Qadriya de toute l'Algérie. Et ça veut dire qu'on ne pouvait pas être déclaré Qadri sans avoir un diplôme écrit de Bagdad, même du tombeau de Cheikh Abdelkader.
Oui. Non, alors je ne sais pas. Question, une porte qui est déjà largement ouverte, mais quand on pouvait poser comme départ, comme définition de la mystique, la question de l'union. Et on ne peut pas parler de mystique de participation, non seulement dans le christianisme, finalement, mais dans l'islam aussi. Enfin, là, il y a une question qu'il faut poser. Enfin, vous avez très heureusement commencé par poser ce.
Oui, bien sûr. Bien sûr. Mais donc, là aussi, la mystique de participation, on a une théologie, enfin ce n'est pas une théologie, une conception de l'ultime qui est tellement radicale, l'idée de la participation est rejetée d'ailleurs. Et donc par le biais du fait que la participation est un terme clé du néoplatonisme, parce que donc chaque hypostase chez Proclus, par exemple, les hypostases inférieures participent aux hypostases postérieures, mais ici, bon, c'est carrément rejeté. Dans le cas de l'ultime, il y a une participation. L'âme universelle participe à l'intellect, mais l'intellect ne participe pas à l'instaurateur. Il y a un abîme. Et ça, à mon avis, bon, on pourrait éventuellement songer à un rapprochement avec l'âme universelle ou avec l'intellect, mais c'est bloqué à un certain point.
Je ne sais pas, oui, Omar, elle est là.
Je vous remercie parce que vous ne savez pas. Ça n'est pas cet aspect, disons, de l'Ismaïlisme. Et j'ai l'impression que les textes que vous présentez, en tout cas les auteurs, sont en retard, en quelque sorte, d'une unité, d'une époque, d'une culture, et sont, puisque le dernier, je crois, est du 11e, Kerman,
début du 11e siècle.
Voilà. Et donc, je me demande si ce n'est pas une façon un peu. Opposé à la tendance qui a vaincu, qui a gagné dans le au sein du sunnisme qui s'appelle l'acharisme, et si ces positions ne sont pas tout simplement une sorte d'extrémisme dans la Mu'tazila. Parce que, jusqu'à Ibn Arabi, de toute façon, la théologie se posait en ces termes. Et on voyait que c'était une aporie, quelque chose. On ne savait pas comment régler ce problème, effectivement. Alors, soit on met Dieu dans le monde, et le monde est saturé de Dieu, soit on évacue totalement, comme le font ces penseurs ismaéliens. Et nous demande donc si, en admettant l'hypothèse qu'il y a avant la hypothèse, que vraiment il se soit mis sous le manteau du soufisme, j'aurais aimé qu'on identifie au moins l'un d'entre eux de l'époque post-akbarienne pour qu'on sache s'ils se sont mis en quelque sorte à l'heure, ils se sont mis après un peu pour, au niveau de leur pensée. Parce que bien maintenant, c'est assez passif, quoi. C'est vraiment. C'est sans intérêt. Parce que affirmer le haït, min haïtu huwa hu, n'est-ce pas ça, on le trouve dans tous les textes de soufisme. On sait très bien qu'il y a une instance en quelque sorte de Dieu où il est inconnaissable, absolu, etc. Tout le monde le dit, tout le monde le dit. Mais comment ensuite, sinon on a l'impression que c'est un coup d'état qu'on a fait contre Dieu, on a mis un imam et il n'y a plus de Dieu.
C'est une question qu'il faut poser aux auteurs. Mais c'est vrai, mais il y a évidemment, vous disiez au début que. Bon, il y a des idées qu'on retrouve dans le moutazilisme. Mais bon, il est vrai, il y a chez ces auteurs ismaéliens une certaine influence du moutazilisme, mais ils rejettent le moutazilisme comme une forme d'anthropomorphisme. Tout cela est rejeté. Bon, et les auteurs bon, qui prennent des apparences, disons, dont les ouvrages semblent se rapprocher du soufisme, bon, c'est uniquement des ouvrages écrits en Iran, en persan. Et à partir du XIIe siècle.
Ah bon?
Nassir et Khosrow, c'est aussi un cas spécial, mais on ne peut pas dire que c'est un mystique. Bon, il n'y a pas de mysticisme dans Nassir et Khosrow. C'est un grand poète, bon, mais ce n'est pas un attar. Hein. C'est très différent, à mon avis.
Oui, mais c'est pas un hasard qu'il rejette le lyrique. Nassir Khosrow est très violemment anti-lyrique.
Oui.
Je pense que c'est lié au fait qu'il est anti-lyrique. Mais je voulais vous poser une question sur quoi il s'appuie, parce que finalement comment il interprète par exemple les versets coraniques dans lesquels Dieu insuffle de son esprit dans l'homme, ou enfin, des choses comme ça qui ont mené à la constitution de cette vision ici, parce qu'il y a quand même beaucoup de données dans le Coran où les attributs de Dieu, c'est quand même le coranique, comment il se positionne par rapport à ça?
J'ai dit tout à l'heure qu'il n'y a pas de théologie. La théologie en soi est impossible si on l'applique à Dieu, à l'ultime. Mais tous les problèmes de la théologie du kalam ressurgissent au niveau de l'intellect. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de problèmes concernant, puisque tous les noms que le Coran mentionne, tous les attributs de Dieu, s'appliquent à l'intellect.
Donc Allah, pour eux, c'est l'intellect.
Ah oui. Ça c'est même explicite, donc je viens encore de lire hier dans un livre, un traité qui t'appelle ça, le livre de l'arbre, qui est un des très anciens textes ismaéliens, où il y a dit « Elahu hova elaku ». Dieu c'est l'intellect, voilà, il est tout à fait, il y a tout un développement là-dessus, bon, il n'y a pas de doute. Et donc, évidemment, les versets coraniques qui parlent de l'infusion de l'esprit, le ta'wil ismaélien peut prendre des formes très, très curieuses, et parfois on fait dire au texte des choses tout à fait surprenantes. Par exemple, je connais des exemples où cela est considéré comme une preuve coranique de l'émanation, puisque le souffle divin, c'est l'émanation qui procède de l'intellect. C'est aussi la descente du ta'yit, parce que donc l'intellect, pas Dieu, l'intellect est le principe de l'inspiration qui fait que, bon, c'est aussi le principe de la révélation, donc il fait que le ta'yid, c'est le ta'yid qui atteint les prophètes, et la révélation n'est pas verbale, elle est purement spirituelle, donc le prophète reçoit une sorte d'influx qui procède de l'intellect, et ils ont les prophètes ont la possibilité de traduire cette inspiration en un, en un discours humain, en tenant fonction du contexte social et culturel du peuple auquel il s'adresse. Mais donc là, on voit très bien, c'est le souffle de Dieu, soit l'inspiration, soit l'émanation. Donc on est tout à fait détourné, et pas du tout dans un sens mystique. Ce taïd, ce n'est pas mystique, bon, c'est un influx, on est dans une forme d'émanatisme.
Merci beaucoup pour toutes ces réponses. Malheureusement, on est rattrapé par le temps. Alors, on voulait vous prévenir que l'association bénéficie depuis un an de l'aide très précieuse de Daniel Proulx ici présent, qui non seulement a accompli des recherches dans l'agenda, mais qui est aussi occupé de remettre à neuf le site web Henri Corbin. Alors, il était prévu qu'on le présente maintenant, ce site web. Malheureusement, on a un peu bousculé par le temps, donc on pense le faire à 14h30, juste à notre retour, si ça vous convient.